Découvrez la richesse des prestations et les compétences auxquelles vous pouvez faire appel en matière de promotion de la santé. Le MAG Promotion Santé sur RTN, en collaboration avec le Service cantonal de la santé publique.
Bonsoir, bienvenue pour cette dernière émission du MAG Promotion Santé consacrée aux jeunes enfants, sommeil, alimentation, propreté. Les parents se posent beaucoup de questions au quotidien. On va s'y intéresser jusqu'à 19h avec Sandrine Vauterret, qui est responsable du secteur enfance à la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel. Bonsoir.
Bonsoir.
Un sujet très vaste, on l'a dit. Dans votre travail au quotidien, il y a quand même certaines grandes questions, on va dire, qui reviennent de manière assez récurrente. Si on commence par s'intéresser au sommeil, ça c'est un souci en tout cas pour certains parents. Pourquoi est-ce que c'est si important que l'enfant ait des bonnes phases de sommeil ?
Alors, le sommeil, c'est pas juste un petit moment où on ferme les yeux et on peut profiter pendant ce temps d'aller se reposer ou vaquer à nos occupations. Pour l'enfant, le sommeil est extrêmement important parce qu'il permet aussi de récupérer de l'énergie, de mémoriser, stocker un peu toutes les informations qu'il a eues pendant sa période d'éveil, organiser aussi ses nouvelles connaissances, ses nouveaux apprentissages. C'est aussi au moment du sommeil que l'enfant peut sécréter les hormones de croissance, donc mieux je dors, mieux je grandis. Donc c'est aussi important. C'est aussi, ça permet aussi de renforcer les défenses immunitaires. Donc c'est vrai qu'un enfant qui a un sommeil un peu perturbé, qui dort pas suffisamment, il peut tomber un petit peu plus souvent malade que d'habitude.
Donc le sommeil c'est important, on l'a compris. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en tant que parent pour les enfants pour qui c'est peut-être un peu pénible, qui sont peut-être un peu trop agités, qui n'ont pas envie de dormir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'aider à s'endormir dans des bonnes conditions?
Alors déjà, il y a des choses qu'on peut faire facilement, c'est aérer la chambre. C'est vrai qu'une chambre qui n'est pas suffisamment aérée ou l'air un peu confiné, un peu trop chaud, ça ne facilite pas l'endormissement. Donc on conseille entre 18 et 20 degrés. Avoir aussi des activités calmes, au moins dans les 30 minutes qui précèdent le coucher.
La bataille de Chatouille, c'est peut-être pas le bon moment.
Voilà. Ou sinon, ça rallonge le coucher. Et puis, ce qui est aussi important, c'est d'avoir une sorte de rituel. Après, chacun peut adapter son rituel, mais puis c'est un rituel qui peut, le rituel de la semaine. Et puis, le rituel peut varier et être un peu plus souple pour le week-end. Mais l'avantage du rituel va préparer l'enfant au sommeil. C'est-à-dire qu'il, quand il sait que ça commence, il sait qu'au final, il y aura le coucher. Donc après, le rituel peut s'adapter en fonction de l'âge de l'enfant, mais en général, ça peut commencer par exemple au moment du repas. Après, il y a le brossage des dents, ensuite le pipi ou changer la couche, un petit moment d'histoire, et puis après, gentiment, on prépare l'enfant au coucher. Donc il sait que quand on mange, après il y a toujours le brossage des dents, le pipi, l'histoire, et on se couche.
Mais est-ce que c'est pas un piège quelque part pour certaines fois ou pour X, Y raison de la vie quotidienne, on n'a pas le temps de faire le rituel dans son entier et puis qu'on aimerait le coucher plus rapidement, on se piège pas soi-même comme ça?
Alors, ça fait gagner du temps à terme. Souvent, comme on dit, on prend 5 minutes là, mais c'est pour gagner une demi-heure plus tard. Après, effectivement, alors le rituel, il va aussi rassurer l'enfant parce que ça met un cadre. Après, c'est bien aussi que le cadre change et puis de pas être
pas
tout le temps
strict.
Figé. Il peut y avoir une fois où je sais pas, quelque chose d'un peu exceptionnel, et puis soit c'est retardé ou on rajoute quelque chose, on enlève quelque chose dans le rituel, parce que si c'est aussi trop rigide tout le temps, c'est aussi stressant, mais pas de cadre du tout, c'est stressant aussi. Donc il faut toujours trouver l'équilibre. Et puis il y a quelque chose aussi qu'on peut faire chez des enfants plus grands qui ont déjà le langage, ou à 18 mois on peut commencer, mais avec des supports comme des livres par exemple, mais ça va être de nommer les émotions. Donc les enfants, ils ont beaucoup de stimulation, surtout s'ils vont à la crèche, pas forcément à la crèche, mais enfin des moments dans la journée où il y a eu beaucoup d'animation, beaucoup d'activités, et puis le soir il se passe plein de choses, et puis l'enfant a besoin aussi de se sentir un petit peu écouté, compris. Donc On peut, chez un enfant plus grand qui a le langage, dire bah, comment tu as passé ta journée, quel a été le meilleur moment de ta journée, quel a été le plus mauvais moment de ta journée. Et le parent peut aussi jouer ce petit jeu-là, de raconter sa journée. Même si on a passé la journée ensemble, on n'a souvent pas la même façon de voir la journée. Et ça permet du coup de nommer, dire j'ai eu peur. Par exemple, un exemple qui m'est arrivé en tant que maman, mon fils était petit, il traverse sans regarder, je l'attrape par le bras, je hurle et je l'ai terrorisé. Et puis voilà, c'était un moment de la journée, mais je voulais une fois le soir reparler un petit peu de ça et dire voilà, là j'ai eu peur. Toi, tu t'es pas rendu compte, mais j'ai eu peur, je suis désolée. Mais au moins, le soir, ben voilà, on peut reparler de ça. Ça peut être aussi un enfant qui, je sais pas, qui est tombé ou qui a eu peur d'un chien ou je ne sais quoi. Qui s'est
disputé avec son enfant. Ça permet aussi de prévenir, d'anticiper, d'avoir une nuit plus paisible parce que ça pourrait être des choses qui pourraient perturber son sommeil, même s'il s'endort, mais qui pourraient amener des réveils dans la nuit.
Pourrait effectivement troubler ce début de nuit et tout à fait. Ça.
De manière générale, qu'est-ce qui pourrait perturber le sommeil d'un enfant ? Pourquoi il se réveille la nuit à ces moments-là ?
Alors, il y a le développement psychomoteur peut perturber le sommeil. Souvent, en consultation, on a des parents qui viennent qui disent « Mais mon enfant, il dormait super bien, et là, ça fait un mois, il ne dort plus, il se réveille, pourtant, je ne sais pas ce qu'il a. » Alors, ça peut être parfois des nouveaux apprentissages, tels que le langage, la propreté, la marche, ça mobilise énormément d'énergie. Et puis il y a tout un tas de nouvelles stimulations, de nouvelles sensations. Et en fait, l'enfant dans la nuit revit ses émotions et ses sensations de la journée, un peu modifiées, mais voilà, c'est là aussi, comme je disais au début, où il va intégrer ses nouvelles acquisitions. Mais ça se fait des fois avec justement un petit peu des perturbations.
Donc c'est des phases, mais théoriquement, il n'y a pas lieu de. Enfin, dans la plupart des cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Ouais, oui, c'est tout à fait ça. C'est une phase du développement qui va mobiliser beaucoup d'énergie à ce moment-là. Et puis justement, souvent, le moment où il y a l'apprentissage et de la marche, et un petit peu le langage, la propreté. Des fois, il y a certains enfants qui peuvent faire tout en 6 mois, une année, tout ça concentré, et ça fait du coup beaucoup, beaucoup de stimulation. Et du coup, voilà, des troubles du sommeil.
Justement, vous avez parlé de ces phases. La propreté, on va peut-être y passer, parce que ça aussi, c'est une étape importante dans la vie d'un enfant et de jeunes parents. Quand c'est qu'on commence? Quand c'est qu'on s'y met? Est-ce que c'est l'enfant qui doit en faire la demande? Est-ce que c'est les parents qui doivent décider? Voilà, on va te mettre sur le pot.
Mm-hmm. Alors, effectivement, il y a certains parents qui proposent le pot comme ça. Très bien, moi je dis aux parents, tant que l'enfant s'est pas intéressé de savoir ce qu'on fait quand on va aux toilettes, tant qu'il nous suit pas, alors voilà, ils ouvrent la porte parce que des fois ils veulent toujours rester collés à nous, mais des fois ils sont un peu intrigués de savoir ce qu'on fait. Donc voilà, le jour où vous remarquez, les parents remarquent ça, on peut très bien mettre un petit pot à côté des WC. Après, tant que l'enfant a pas compris. Enfin, fait le lien, on va dire, entre la sensation de faire pipi ou caca et ce qui se passe après dans la couche, c'est pas le moment de commencer. Donc voilà, mais par contre, quand l'enfant commence à peut-être un peu s'isoler, se mettre dans un coin ou dire je fais caca, ben là, on peut commencer à le mettre sur le pot.
Donc l'idée de vouloir imiter ses parents, il y a oui. La sensation. Oui. Après, comment on... J'allais dire, on exploite, mais comment on utilise ces sensations qui découvrent pour l'aider à être propre?
Ça va être d'enlever la couche à ce moment-là, le mettre sur le pot. Et puis après, il peut y avoir, comme je disais tout à l'heure...
Il faut le mettre en disant, je te mets toutes les 2 heures, je te mets sur le pot. Il faut faire des rythmes ou bien il faut...
Alors on peut faire ça, si on remarque par exemple que l'enfant il fait toujours caca après le repas ou pipi, on peut le mettre systématiquement après le repas. Systématiquement sur le pot, mais qu'il fasse ou qu'il fasse pas, peu importe, mais d'instaurer un petit rituel, comme on parlait tout à l'heure pour le sommeil. Et puis petit à petit, il va y arriver. Après,
faut pas vouloir aller trop vite non plus, faut pas le punir mais s'il y arrive pas, enfin il faut.
Alors vraiment que ça reste toujours la notion de plaisir. L'enfant, en fait, pour lui, le pipi ou le caca, c'est un cadeau qu'il nous donne et c'est précieux pour lui, c'est extrêmement précieux de le donner ou de ne pas le donner. C'est lui qui décide. Et puis, comme je disais tout à l'heure avec le sommeil, la propreté, elle peut perturber. Enfin, toutes les acquisitions ne peuvent pas se faire en même temps. Donc, des fois, les enfants commencent à être propres. Tout d'un coup, ils régressent, ils refont dans leur couche. Mais parce qu'à côté de ça, ben, tout d'un coup, c'est le langage qui est en train de se développer. Donc, du coup, l'enfant,
il
peut pas,
que ça lui prend de l'énergie.
Ça lui prend beaucoup trop d'énergie là. Du coup, il régresse au niveau de la propreté.
Certains événements, peut-être aussi l'arrivée d'un petit frère.
D'un petit frère peut perturber des tas de choses aussi, le sommeil, l'alimentation, effectivement, la propreté.
Il y a des enfants qui ont certaines peurs aussi, qui ont peur de monter sur les toilettes, par exemple, qui vont sur le pot, mais qui ont peur de monter sur les toilettes.
Ouais, la peur du trou, parce que voilà, le pot, ben, y a le fond, voilà, on voit. Et puis les WC, c'est un peu effrayant. Donc là,
le cadeau qu'il nous fait, il part.
Il part, voilà. Ouais. Et donc là, la petite astuce, ça peut être de faire une sorte de petite cérémonie au caca qui part. Et puis, et voilà. Parce que pour lui, encore une fois, c'est vraiment précieux ce qu'il a fait. Là, c'est vraiment, c'est important pour lui. Donc, de faire comme si c'était rien, ben, ça peut, voilà, ça peut aussi être difficile pour lui. Et puis, le fait aussi, il y a des petites marches on peut mettre à hauteur des WC aussi. Ça peut aider aussi pour l'autonomie. Et puis, des fois, ces supports ont un petit pot qu'on peut après enlever. Donc, c'est-à-dire, dans la première phase, on va mettre le pot et après, on peut l'enlever.
Sandrine Vautrin, on rappelle que vous êtes responsable du secteur enfance à la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel. On va marquer une petite pause. On vous retrouve juste après.
Merci.
On est dans le MAC Promotion Santé, on parle petite enfance jusqu'à 19h et avec des questions que se posent les jeunes parents. On est en compagnie de Sandrine Vautéré, qui est responsable du secteur petite enfance à la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel. On va parler alimentation, mais avant ça, on va se pencher un moment sur l'hygiène dentaire. La Société Suisse des médecins dentistes propose depuis pas mal d'années maintenant des visites gratuites de dépistage précoce. Robin Jacquet, qui est président de la SSO Neuchâtel, nous explique l'intérêt de ces visites.
Selon nos recommandations, l'hygiène dentaire débute au moment où les premières dents apparaissent dans la bouche. L'intérêt des dépistages précoces aux environs des 3 ans, c'est que la dentition de lait, donc la dentition temporaire, est presque complète à ce moment-là.
Mais ça veut dire qu'avant 3 ans, on a moins besoin de faire attention à l'hygiène dentaire ?
Non, on nettoie en principe les dents dès qu'elles apparaissent dans la bouche. Ça, c'est un principe de base. L'intérêt des dépistages précoces, c'est que les parents puissent nous amener leur enfant, mais par exemple lors de leur rendez-vous, et puis qu'on puisse établir ce premier contact avec l'enfant. C'est un premier contact qui sera facile à ce moment-là. C'est l'occasion d'établir un lien de confiance, d'habituer l'enfant au contrôle, d'éviter un éventuel traumatisme qui serait lié à une première séance en urgence, plus tardivement. Il permet aussi de traiter l'enfant plus facilement par la suite.
Est-ce que les parents, finalement, c'est eux qui ont le plus besoin de ces dépistages ? C'est eux qu'il faut éduquer à une bonne hygiène dentaire pour leurs enfants ?
Oui, alors évidemment que l'examen chez un enfant de cet âge-là va être relativement rapide. Par contre, c'est une réelle occasion de pouvoir discuter avec les parents. Alors bon, il y aura une évaluation de l'hygiène de l'enfant, du point de vue technique, des moyens, des habitudes. Et évidemment, quand on va parler de ça, c'est l'occasion de créer, entre guillemets, une certaine éducation des parents à l'hygiène de leurs enfants.
L'idée, c'est de toucher un maximum de personnes avec ces bons de dépistage gratuits que vous proposez, y compris des personnes, par exemple, de culture étrangère qui n'ont peut-être pas dans leurs habitudes d'aller voir régulièrement un dentiste.
Alors bien sûr, l'idée de notre métier déjà à la base, c'est de voir le plus grand nombre de personnes, de toucher tout le monde, parce que la prévention, elle regarde tout le monde, et en particulier de stimuler des populations qui habituellement ont de la peine à venir consulter, soit par manque d'information, manque d'accès à l'information, ou crainte d'avoir des coûts élevés. C'est vraiment l'idée de les stimuler à venir faire contrôler leurs enfants le plus tôt possible.
Parce qu'à partir de l'âge scolaire, les enfants sont régulièrement contrôlés, dépistés. Avant ça, on peut faire la différence si on dépiste déjà des situations à risque.
Clairement. Il y a des problèmes, ils arrivent très vite. Quand on voit un enfant à 5 ans, c'est souvent déjà trop tard par rapport aux caries. Donc clairement, le dépistage précoce permet de sensibiliser les parents aux problèmes, de mettre en place au sein des familles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a souvent des enfants qui vont venir encore derrière, et ce qui permet de mieux préparer les parents aux enfants suivants au sein de la même fratrie. Et puis, il y a certains problèmes qui sont très connus, comme les caries du biberon, où là, clairement, l'information des parents est primordiale.
Et sur ce point-là, vous travaillez aussi avec les pédiatres maintenant?
Alors, le mode d'accessibilité, si vous voulez, à ces dépistages précoces, donc les enfants, en principe, voient leur pédiatre assez régulièrement. Je pense que les pédiatres sont le corps de métier qui est le plus à même de distribuer ou de stimuler les parents à faire contrôler leurs enfants au bon moment. Donc, en général, au contrôle des 2 ans, les pédiatres sont incités à faire télécharger aux parents un bon sur notre site internet pour que ces parents puissent venir faire contrôler gratuitement leurs enfants dans nos cabinets.
C'est bon, de dépistage gratuit, donc vous pouvez les télécharger sur le site de la Société Suisse des Médecins Dentistes, qu'on vous mettra en lien sur la page de l'émission. Une bonne hygiène dentaire, on l'a compris, c'est important, c'est aussi lié à une bonne hygiène alimentaire. Sandrine Vauterré, vous êtes responsable du secteur enfance à la Croix-Rouge du canton de Neuchâtel. Le dentiste Robin Jacquel a dit l'hygiène dentaire, ça commence dès que les premières dents apparaissent. Est-ce qu'il en est de même pour l'hygiène alimentaire? Est-ce que c'est à ce moment-là ou alors à quel moment on peut commencer à introduire des aliments solides pour un bébé, pour un enfant?
Alors, le plus tôt pour commencer, c'est 4 mois et 1 jour. Disons qu'il ne faudrait pas commencer avant 4 mois et 1 jour. Et au plus tard, à 6 mois et 1 jour. On va dire donc ça nous laisse, ça laisse 2 mois aux parents pour pouvoir commencer à diversifier l'alimentation.
Mais en fonction de quoi alors?
Alors ça peut, comme tout à l'heure avec la propreté et le pot, ça peut être l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire un enfant qui s'intéresse à ce qu'on mange, qui veut attraper tout ce qu'on mange, qui ouvre la bouche quand le parent mange. Donc là, il y a un intérêt réel, donc ça peut être cette occasion pour commencer. Ça peut être aussi, par exemple, un enfant qui fait plus ses nuits, donc il y a vraiment comme quoi l'allaitement ou l'alimentation artificielle si elle ne suffit plus exclusivement
à le rassasier.
Voilà, le rassasier. Donc, ça peut être un enfant qui se réveille beaucoup plus tôt que d'habitude, alors qu'il mange autant de biberons, autant de tétés que d'habitude. Ça peut être un enfant qui perd du poids, et puis on a besoin de compléter. Voilà, donc c'est différentes raisons où on peut commencer.
Vous avez dit pas avant 4 mois, pourquoi pas avant 4 mois?
Disons que le système digestif n'est pas suffisamment mature encore. On peut, mais c'est des rares exceptions. Et puis c'est sur avis médical pour qu'on commence plus tôt. En général, c'est avant, pas avant 4 mois.
Et puis là, on parle donc des premières, plutôt aliments sous forme de purée, de bouillie. Quand on commence, il faut y aller progressivement, dans le sens qu'il ne faut pas vouloir tout lui faire goûter d'un coup.
Oui, c'est juste. Alors, ça va être quelques petites cuillères. Souvent, les premières cuillères, elles finissent dans le bavoir. pas dans l'estomac.
Mais c'est aussi un jeu, c'est un moment ludique.
Alors, il y a ça, puis il y a aussi que le mouvement de la langue n'est pas forcément le même quand on tête que quand on mange. Donc, naturellement, ça va ressortir. C'est aussi une éducation.
Donc, peut-être pas commencer par les épinards.
c'est égal. Mais après, l'idée, c'est de mettre en contact l'enfant avec des nouveaux aliments. Donc, même si c'est une cuillère qui est restée 5 secondes dans la bouche, l'enfant a pu tester déjà la texture, le goût, il a pu voir peut-être la couleur, et puis il a été en contact avec les molécules de l'aliment. Et puis, on propose donc quelques cuillères qu'on va augmenter progressivement chaque jour, et c'est minimum 2 jours consécutifs avant d'en introduire un nouveau. Comme ça, s'il y a une intolérance, on sait que c'est vraiment celui-là. Si on va trop vite, et qu'on introduit 2 ou 3 aliments dans la même journée, on ne saura pas lequel. Donc, il y a des diarrhées, des vomissements, des plaques rouges, des boutons, je ne sais quoi. On ne saura pas si c'est la carotte, le fenouil ou la pomme de terre.
Donc, il faut
y aller progressivement. Tout à fait.
Rapidement, est-ce qu'on sait, on peut dire qu'il y a certains aliments qui ne sont pas permis, en tout cas pas avant un certain âge, qu'il faut attendre plus tard?
Alors, actuellement, on dit que les enfants mangent de tout, tous les aliments de saison, fruits et légumes. Ce qui est exclu, c'est pas de sel, pas de sucre, pas de miel la première année, et puis pas de lait, pas du lait comme en brique qu'on aura, ou ça sera à partir d'une année. Les yaourts, on peut à partir de 6 mois, et puis après tout ce qui est produit de base de produits de lait maternisé, ça on peut la première année. Mais lait de vache et les fromages au lait cru, ça c'est interdit la première année. Sinon, après, tout le reste.
Voilà. Et puis après, il faut s'adapter à son enfant. Quand on parle d'alimentation, de sommeil, de propreté, voilà, ouais, c'est aussi pour ça que vous êtes à disposition à la Croix-Rouge, Sandrine Vautrey. Il ne faut pas hésiter à venir vous consulter.
Oui,
vous êtes responsable du secteur enfance pour le canton de Neuchâtel. Là aussi, on pourra retrouver les liens, les contacts, les horaires, toutes les informations utiles sur
tout
la page
fait
de l'émission. Une émission qui touche presque à sa fin. Dernière émission d'une série de quatre émissions du MAG Promotion Santé, accompagnée également d'une série de chronique. Et pour clore cette émission, on accueille Lysiane Humel-Mariani. Vous êtes déléguée à la promotion de la santé au service cantonal de la santé publique. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. C'est vous qui vous cachiez un peu derrière toute cette série d'émissions et de prestataires de différentes organisations qu'on a accueillies. Pourquoi ça vous tenait à cœur? En quoi c'était important pour vous?
Pour moi, c'était extrêmement important pour que la population connaisse les ressources qui sont à disposition. Il y en a beaucoup dans le canton. Tout au long de ces émissions, on a accueilli une quarantaine de professionnels d'horizons différents, d'institutions différentes qui ont, je trouve, et on a encore vu ce soir, magnifiquement illustré ce qu'ils pouvaient proposer à la population pour promouvoir leur santé. Donc on n'est vraiment pas dans le registre de « je suis malade, je cherche un problème », mais dire « qu'est-ce que je peux activement faire pour prendre soin de ma santé, prendre soin de la santé de mes enfants ?» Vraiment tout ce qui est en lien avec le bien-être et je pense aussi le plaisir. Madame Vautrey l'a dit aussi très bien ce soir.
Alors vous, à titre peut-être plus personnel, qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que ces gens, ces organisations, vous les côtoyez régulièrement, au quotidien. Est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce que vous avez eu des découvertes? Qu'est-ce que vous en avez retenu de tout ça?
Alors moi, j'ai eu énormément de plaisir à les entendre. J'ai appris un certain nombre de choses. Je me suis rappelée aussi un certain nombre de choses ce soir, vu que mes enfants sont déjà plus grands. Moi, j'ai maintenant des pré-ados, donc j'ai aussi retenu pas mal de choses sur les adolescents en devenir, par rapport à l'alimentation, par rapport à leur activité sur les réseaux sociaux. J'ai retenu que ça ne servait à rien de les surveiller, mais qu'il fallait plutôt privilégier la confiance, le dialogue, etc. Et puis je précise que ce n'est pas encore fini, il y a encore trois semaines qui viennent. On va parler encore de sujets très intéressants comme la santé des LGBT, l'alimentation des seniors, un projet qui s'adresse aux femmes migrantes. Et je pense qu'avec l'ensemble de ces chroniques, on a un bon tour d'horizon des prestations dans le canton, mais c'est encore pas exhaustif, donc il y aura encore beaucoup de choses à dire.
On peut encore, en tout temps, se rendre compte de tout ça via la page spéciale que vous avez mise en ligne.
Absolument.
On la retrouve depuis rtn.ch.
Exactement.
Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Très belle soirée.
Merci à vous.
Réécoutez le MAG Promotion Santé en tout temps sur rtn.ch, onglet chronique.